premier morceau de Laïus que j'aurai à présenter n'est pas simplement de répéter ce que vous avez sur le canevas, mais plutôt de préface, un élément d'introduction. Je suggérais au début de la première feuille qu'on essaie de faire une lecture neuve. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi une lecture neuve? La phrase même trahit la notion qu'on peut avoir, et je crois souvent une notion juste, que nous nous prenons très rapidement, très facilement dans des habitudes de lecture. Nous retrouvons les pensées que nous connaissons déjà. Des fois même, je crois, un observateur doué de l'analyse de la communication nous dira que ce qui se passe dans un cercle d'études bibliques est souvent l'effort de retrouver dans un nouveau texte les idées qu'on a déjà. D'autres textes, d'autres matières, de se trouver à la maison en se démontrant que n'importe où on trouve les mêmes idées. Et surtout les premières idées qu'on avait sur son expérience personnelle, la première fois qu'on s'est rendu compte de son besoin d'un sauveur, la première fois qu'on s'est rendu compte de ceci et cela, on trouve de nouveau cette vérité chérie, connue, dans un autre texte. Et ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Et je vous dois le dire un peu pourquoi. Tout d'abord, parce que, on peut le dire du concept de parole de Dieu dans son sens plus large, prophétique, on peut le dire aussi de l'écriture même. L'écriture ne peut travailler comme puissance de rénovation que si nous nous attendons à y trouver encore quelque chose, et pas simplement le rappel ou la répétition ou encore une fois voir souligner les choses que nous savons déjà et que nous avons besoin de répéter. Même le mot évangélique, je pense qu'on pourrait le montrer dans l'histoire des églises et des mouvements de rénovation dans les derniers siècles, a deux sens presque contradictoires sociologiquement. Il y a les uns pour lesquels c'est un terme essentiellement conservateur, parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a déjà cru, ce que les pères dans la foi ont cru, ce que les grands fondateurs d'un mouvement ont proclamé, et ce n'est pas faux. Mais il y a d'autres pour lesquels la bonne nouvelle est nouvelle. C'est-à-dire qu'on trouve autre chose, davantage. Et pour ça, il faut une certaine discipline pour chercher à trouver dans un texte, non pas seulement les choses déjà connues et confortables, déjà intégrées dans notre façon de voir, mais aussi les choses qui ajoutent, qui nous poussent plus loin dans la connaissance de tout ce que signifie notre vie de disciple. Je pense que dans le milieu universitaire où vous vous trouvez, il y a une raison de plus de vouloir faire cela. C'est parce que peut-être davantage que dans une petite communauté de campagne ou de quartier ouvrier, une partie du témoignage est le sérieux avec lequel nous prenons la rencontre avec la vie intellectuelle de l'université et du monde littéraire. Et cela veut dire que l'interprétation des textes bibliques, l'exégèse, pour lui donner le nom technique qu'on a dans les facultés, comme discipline objective, est plus importante pour ce monde-là que pour certains autres milieux. C'est-à-dire, nous le devons au témoignage de montrer que nous savons respecter un texte et laisser un texte ou rendre possible qu'un texte nous parle honnêtement de son caractère littéraire, linguistique, en prenant au sérieux le lieu de son origine, qui l'a écrit et pourquoi, pour qui, quand, avec quelle pointe d'accent. C'est donc une raison supplémentaire de penser que dans les GBU, on devrait avoir un souci plus profond que dans le passé peut-être, pour l'objectivité du message du texte et pour le laisser dire les choses qu'on n'avait pas l'habitude de se laisser dire. Une raison de plus, c'était déjà touché par David tout à l'heure, une raison supplémentaire pour chercher une lecture neuve dans la matière dont nous avons à parler, c'était pas moi qui ai choisi le sujet, Mais j'ai accepté volontairement de le traiter encore une fois. C'est que les questions de nos prochains, des non-chrétiens, ou des gens en marge des églises, sont un défi. Et sont même un peu plus que ça, sont presque une condamnation d'une certaine lacune dans le passé des témoignages des mouvements d'évangélisation et des mouvements évangéliques. Ce n'était pas toujours le cas, et ce n'est pas partout le cas pour tous, mais c'est le cas plus aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, que le monde universitaire nous pose les questions sur la pertinence sociale de notre message. C'est un peu à cause de son orientation missionnaire que les GBU, surtout en Amérique du Sud, sont très avancés dans ce genre de choses. Donc, je viens de recevoir sur TESA, la revue des GBU d'Amérique du Sud, la moitié de ce numéro est en conversation avec le marxisme qui domine tellement les universités d'Amérique du Sud. Critique chrétienne du capitalisme, les failles de la société de consommation, idéologie et propagande, la félicité nationale brute, la réforme protestante et le capitalisme, et même, pour voir le niveau du langage, étudiants du monde, unissez-vous, qui est un rapport sur Muttersil, la réunion de coordination des GBU d'Europe. C'est un signe simplement de la prise au sérieux de l'ordre du jour du prochain et du monde dans lequel nous essayons d'insérer notre message. Une raison de plus à titre de préface. Ici je vais être un peu plus critique et c'est une chose sur laquelle on aurait peut-être à s'expliquer plus tard. Je crois qu'il faut confesser une carence certaine, particulière, de certaines formules dualistes héritées d'une certaine culture chrétienne médiévale, que les mouvements de réforme n'ont pas fondamentalement changé. La chrétienté, comme culture du Moyen Âge, était dominée par une certaine philosophie, c'est-à-dire une vision du monde post-platonicienne, selon lequel il est très important de distinguer entre l'intérieur et l'extérieur, l'âme et le corps, le spirituel et le réel, différentes façons, mais la démarche même de couper entre le profond et le visible était caractéristique de la culture influencée par le platonisme et ses héritiers. Cela nous pose une barrière particulière pour nous occuper du côté social, visible, structuré du message de Jésus. Et deuxièmement, cette culture était dominée par une sociologie post-constantinienne, c'est-à-dire dominée par le fait que le christianisme était devenu la religion officielle de toute une civilisation. Et l'Église, dans le sens du Nouveau Testament, l'Église, un corps visible de gens engagés par leur engagement personnel à se rencontrer et agir d'une façon dictée par leur foi, cette Église est disparue en faveur d'une Église définie par le haut, par la hiérarchie, etc., qui s'identifia avec la société. Donc on ne pouvait pas avoir un message chrétien face à la société. Le message de Jésus était identifié avec la société. Jésus était l'autorité à laquelle on faisait appel pour la légitimité de l'ordre total. Tous étaient baptisés, tous étaient chrétiens, surtout les princes. La chrétienté était un ensemble culturel. Ces deux préjugés sociologiques et philosophiques se joignent pour empêcher au message de Jésus d'être compris. Ils se renforcent l'un l'autre, tout en étant distinguibles, on peut analyser la différence. Mais s'aligne pour dire que le message de Jésus ne doit pas dicter notre façon de vivre dans le monde des structures sociales et même politiques. Jésus dit de ne pas dominer sur les hommes. C'est le dernier texte qui est cité sur la feuille. Mais nous savons que l'Église a été sauvée par Constantin et réformée par les princes et répandue sur l'Europe par Charlemagne. Donc il ne faut pas s'appliquer, il ne faut pas appliquer ça à notre vie. Ce que Jésus dit sur la tentation de dominer. Et ainsi de suite, on peut le détailler de beaucoup de côtés. La morale chrétienne installée se joignait à la spiritualité philosophique pour dire que le message de Jésus est un message sans pertinence directe pour le social. Et donc, cette lecture neuve que nous recherchons, ce n'est pas simplement parce que, voulant être honnête et objectif, nous supposons qu'il pourrait y avoir une lecture neuve. C'est parce que nous nous rendons compte qu'il y a une défaillance particulière dans l'héritage culturel de l'Occident qu'il faut corriger. Beaucoup de mouvements de réforme ont fait quelque chose pour cette correction, mais nous restons sous l'influence de cet héritage occidental de chrétienté qui nous rend difficile de trouver dans le message si simple et si concret des évangiles ce qu'il dit sur ce sujet. Peut-être là, il y aurait déjà matière à discuter, même avant d'arriver au texte. Un dernier mot sur une préface. Le mot même « social » a pris une tournure théologique ou spirituelle négative dans les dernières générations, surtout dans le christianisme anglophone. On parlait d'un évangile social dans des termes qui paraissaient jeter trop de lest, abandonner trop de convictions traditionnelles évangéliques, et cela a donné encore une barrière de plus devant la lecture simple des évangiles. Notons-le simplement qu'il y a une certaine prévention sur le plan du vocabulaire contre la préoccupation pour le social dans certains milieux évangéliques, qui s'explique par l'histoire de la pensée des deux dernières générations, surtout dans les églises anglophones. Raison plus de faire attention aux matières mêmes. Maintenant, j'ai pris le quart d'heure que moi je voulais prendre, mais Gérard me dit de faire un peu plus. Je le fais seulement en situant les questions que vous avez sur la feuille, là. Jésus est arrivé dans un monde qui attendait du nouveau social. Il est né dans un peuple opprimé et occupé. Occupé par une force qui n'était pas seulement étrangère, les Romains, impériale, mais aussi étrangère à la foi de ce peuple. Les Romains païens, idolâtres, dominaient les Juifs, porteurs d'un message anti-idolâtre et d'une autre moralité aussi. Donc cette présence romaine était beaucoup plus qu'un manque de liberté civile. C'était une offense à la sainteté de Dieu même. Et on s'attendait à des libérations. Et la libération à laquelle on s'attendait ne faisait pas la distinction que nous faisons entre la dimension sociale et la dimension spirituelle. Justement, cette distinction post-médiévale ou platonicienne, on a du mal à trouver dans le texte. Nous n'allons pas maintenant passer par tous ces textes, ça nous mettra trop longtemps, mais prenons-en quelques-uns, à commencer par le premier. Un terme qui, je suppose, a été un texte qui probablement a été chanté tous les jours dans cette salle quand c'était un grand séminaire, parce que c'est un des textes qui reçoivent le plus d'attention dans la liturgie catholique traditionnelle, sous l'étiquette Magnificat, c'est le cantique de la petite jeune fille juive, Myriam, quand elle apprend qu'elle va être la mère d'un sauveur. Et en quels termes est-ce qu'elle chante? En termes qu'on pourrait voir dans la bouche d'un poète du Front de Libération Nationale. Et il y a même des érudits qui prétendent que quand Luc a voulu ramasser les témoignages historiques pour faire son évangile, qu'il a trouvé ce chant pas chez Marie, mais chez les Maccabées, c'est-à-dire dans un héritage d'un mouvement de guérilla. Je ne dis pas que c'est juste, mais je dis que la matière a pu provoquer des hypothèses si fortes que ça. On pourrait lire le tout, mais commençons où ça devient le plus fort. 51, il a déployé, c'est le langage prophétique qui parle dans le passé de quelque chose qui va se passer. C'est un truc dans la langue hébreu. Quand quelque chose est très sûr de venir, même encore futur, on en parle dans le passé pour montrer combien que c'est sûr. Donc quand Marie chante dans le passé, c'est quand même une prophétie. C'est ce qui va se passer avec celui qui va naître. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a porté secours à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde ainsi qu'il l'avait promis à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Et quelle était la promesse à Abraham? On le voit dans le cantique parallèle de son cousin Zacharie à la naissance du petit cousin de Jésus, Jean, qui allait être le premier des baptistes, donc commencement du mouvement des églises libres. 73 ou 72. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivré de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice sous son regard tout au long de nos jours. Donc, liberté, délivrance des craintes de nos adversaires, c'est cela qu'on attendait. Et il est frappant avec quelle facilité dans les mouvements évangéliques qui ailleurs disent que la Bible est littéralement vraie, avec quelle facilité on saute à la conclusion que ça, ce n'est pas à prendre comme ça devait sonner dans les oreilles des premiers qui l'entendaient ou devant les yeux des premiers qui l'ont lu. Ici, c'est nettement un message qui prévoit que l'action de Dieu, l'intervention de Dieu dans l'histoire, dans celui qui doit naître, aura un caractère qui comprendra le social. Les riches seront renvoyés les mains vides. Les affamés seront comblés. Passons seulement au premier message de ce Jean quand il commence son ministère, au chapitre 3. Les foules lui demandaient « Que nous faut-il donc faire ?» Il avait déjà demandé la repentance, la véritable repentance qui porte des fruits. « Que faut-il donc faire ? » Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. « Que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des publicains aussi, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'oppression romaine, vint se faire baptiser, lui dire « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est fixé. » Et puisque ces gens vivaient principalement sur la marge de fraude, dans leur perception des impôts, c'est un grand sacrifice. À leur tour, les soldats lui demandèrent Et nous, que nous faut-il faire? Ne molestez personne. Ne dénoncez pas faussement. Contentez-vous de votre solde. Et si vous connaissez, si vous avez par vos ancêtres la capacité de connaître quelque chose de ce que c'est que de soumettre à une occupation militaire, je viens de la partie d'Israël où ce sont les Arabes qui sont à la maison, on sait que des soldats qui feraient ça, ce serait une révolution. Donc les exemples, même avant l'arrivée de Jésus, montrent qu'il y aura toujours une dimension de changement dans les structures de relations humaines qui viendra quand celui-là viendra. Je dis toujours une dimension, je ne veux pas opposer le social à l'intérieur, au spirituel, c'est justement de cette opposition ou cette séparation que je veux mettre en question. Donc je ne parlerai jamais de remplacer le message intérieur par un message extérieur, mais voir que c'est un message global, qui est toujours en même temps intérieur et extérieur, qui a toujours en même temps les dimensions subjectives et les dimensions des structures des relations humaines. Lesquels des éléments de canvas est-ce que nous voulons encore soulever? Bon, prenons la deuxième moitié de deux. Jésus est tenté. Il vient d'être baptisé. Lors de son baptême, la voix céleste l'a désigné comme Messie en utilisant un langage messianique tiré de l'Ancien Testament. Et maintenant, il est proie à un éventail d'options, des façons d'être celui qui vient d'être désigné pour être. Comment est-ce que tu vas être maintenant Messie? Messie veut simplement dire celui qui est désigné pour la royauté. Il y a trois options qui se présentent. Dans l'une, tout le monde s'accorde à avoir une dimension politique parce que le tentateur dit « Je te donnerai tous les royaumes ». Dans les deux autres, on ne voit pas cette pertinence si facilement parce qu'on a devant nous un certain gris de lecture, un certain filtrage, mais les commentateurs récents s'accordent d'une manière croissante à voir que tous les trois sont des aspects de la tentation à être la sorte de sauveur, de libérateur qui s'imposerait par une violence révolutionnaire qui sera la sorte de roi des Juifs que beaucoup de ses compatriotes s'attendaient à voir venir. Fais de tous ces rochers, de toutes ces pierres, du pain. Nous individualisons cette tentation en disant Jésus avait bien faim, il avait jeûné très longtemps. Et donc il s'agissait de la tentation d'abuser de sa puissance surhumaine pour son propre compte. Et il a rejeté cette puissance. Je suis d'accord qu'il rejetterait cette puissance, mais c'est probablement pas de ça qu'il s'agit. Les médecins parmi nous savent que quand on a jeûné 40 ans, on n'a pas 40 jours, on n'a pas faim. Et quand on veut rompre un jeûne, on le fait tout doucement, pas avec tout un champ plein de pain aussi grand que les cailloux que je connais à Jérusalem. Non, c'était une image de la tentation d'être celui qui pourvoit, de donner à manger à tout le monde. C'était la tentation, terme moderne, de l'état bienfaisance. Et nous savons que c'était une tentation appropriée parce que plus tard, Jésus l'a fait. Il a donné à manger à la foule dans le désert et il voulait le faire roi. C'est même une chose frappante que les analystes de la structure des évangiles commencent à noter. Les trois choses que Jésus était tenté de faire, il les a faites plus tard, dans un autre cadre. Il a donné à manger aux foules. Troisième tentation, c'est de paraître dans le temple avec autorité. Encore une fois, nous le lisons traditionnellement comme dans l'idée qu'il était question de s'accréditer comme envoyé de Dieu par le fait de pouvoir tomber depuis là-haut et pas se faire mal. Une sorte d'acrobatie céleste. C'est bien plus sérieux que ça, parce que selon certaines prophéties de l'Ancien Testament, on attendait le retour du Messie du ciel dans la cour du temple. C'est comme ça qu'il devait venir pour purifier le temple. Il viendra soudain dans son temple pour purifier les fils de Lévi. Donc cette arrivée ne serait pas marquée par le fait qu'il est tombé de bien haut sans se faire mal. Cette arrivée serait l'apparition depuis le ciel pour prendre en charge, comme le Messie doit le faire, la maison de Dieu. Bien ça, Jésus l'a fait aussi. Il est arrivé pour purifier le temple, dans un autre cadre. Mais chaque fois, il y a une pertinence messianique concrète à sa tentation. Il ne disait jamais au tentateur, tu as mal compris, j'ai un message seulement spirituel. Non, c'était une tentation. Il aurait pu le faire. Il aurait pu vouloir le faire. Ça aurait cadré dans son programme. C'était faux, mais c'était une véritable tentation. Alors que si Jésus avait été purement spirituel dans ses préoccupations, s'il aurait été seulement désireux d'aider les gens à se savoir pardonner, ça n'aurait pas tenté ces choses-là. Terminons maintenant avec son premier message en synagogue, Luc 4. Il nous est dit ailleurs dans les évangiles que Jésus allait souvent dans les synagogues. Mais c'est la seule fois que nous savons ce qu'il a dit. Il prend le texte d'Ésaïe 61. Là aussi, on ne sait pas si c'était juste ce texte qui était à l'ordre du jour selon les lectionnaires, ou si lui-même l'a choisi, mais dans les deux sens, c'est frappant, peut-être providentiel, peut-être son choix. Mais le texte qui tombe sous ses yeux parle de libération messianique. Luc 4, à partir du 14, nous avons le commencement de cet épisode, à partir du 18, la citation d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. C'est le mot Messie, celui qui est consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que c'est l'année de grâce? Les commentateurs sur le texte d'Ésaïe sont d'accord que c'est l'année de jubilé, c'est-à-dire selon certaines provisions de la loi de l'Ancien Testament, qui n'était jamais trop respectée, mais qui était très claire dans les textes. Tous les 50 ans, on partageait. Ceux qui, par la bonne chance ou la bonne gérance, ou le fait de ne pas avoir trop d'enfants, avaient pu amasser une certaine richesse, le partageaient. Ceux qui, par la mauvaise chance ou la mauvaise gérance, ou le mauvais temps, ou le fait d'avoir trop d'enfants, étaient devenus pauvres, rentraient dans leurs biens. Donc, une institution d'égalisation économique. Le message d'Ésaïe dit, quand le Messie vient, il va proclamer une année de jubilé, d'égalisation économique. Et Jésus dit, ça y est, j'y suis. Nous commençons maintenant le partage. Il n'y a rien dans ce texte qui nous autorise à la spiritualiser en pensant qu'il s'agit seulement de la grâce du pardon intérieur ou de l'accès au ciel. Et le ministère de Jésus, à partir d'ici, est marqué par le fait qu'entre lui et ses disciples, il y a déjà une communauté, une bourse commune, que l'impact de son message pour les autres, c'est parfois qu'ils laissent leur métier, des autres fois qu'ils donnent leur fortune. Jésus commence un nouvel ordre de relations humaines par sa présence même. Et il comprend ça dans la définition de l'ère messianique, de l'époque de l'accomplissement des promesses que lui inaugure. Maintenant, je pense que pour, surtout pour ceux qui n'ont pas déjà entendu ce genre d'introduction, ça suffira pour vous donner des questions à poser, pour provoquer des réactions.
Parler des implications sociales et politiques du message de Jésus-Christ en disant que les prophéties qu'il choisit ont bien une incidence messianique comme sociale et politique. Comment se fait-il alors que Jésus n'ait pas pris les moyens politiques pour réaliser ce programme?
C'est un peu difficile d'anticiper les éléments que nous aurons encore à voir dans la liste. La question, c'est dans un certain sens la question pour toute la semaine. Le mot politique paraît avoir dans chaque contexte une définition assez nette pour qu'on sache ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Mais cette distinction-là entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas est aussi une des choses que nous avons à mettre en question. Jésus n'a pas pris le moyen de la politique violente du mouvement de libération nationale qui existait en son temps. Et je prends ce terme moderne parce que c'était très parallèle. Depuis la fin de l'état des Maccabées, il y a plus d'un siècle, et jusqu'à l'année 135, donc après Jésus, il y avait chaque génération une révolution type FLN. Ça faisait partie de la structure sociale de l'époque, cet effort-là, et Jésus n'a pas fait ça. Mais il n'a pas non plus suivi les chemins apolitiques qui étaient traditionnels, de ne pas s'en occuper, de laisser ça comme c'était, de ne pas le mettre en question. Donc, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on veut dire en parlant de politique. Dans le sens profond du terme, le politique, c'est ce qui porte aux questions de puissance, de richesse, de structure, de la convivance, c'est un mot espagnol, est-ce que ça existe en français?
Convivialité, je crois.
Non, convivialité, c'est autre chose. Le fait de vivre ensemble en société, et de tout cela, j'ai déjà parlé tout le temps. Et il a utilisé un langage politique, royaume, justice, évangile même, c'est un terme politique. C'est une bonne nouvelle, pas pour moi-même et pas pour n'importe qui, c'est une bonne nouvelle pour la communauté, le mot évangélique. Le mot ecclésia et son équivalent en araméen que Jésus parlait n'est pas une réunion culturelle, c'est une réunion délibérative de l'assemblée du peuple de Dieu. Donc, point par point, Jésus utilise le langage politique. Il n'utilise pas les moyens politiques de César, ni les moyens politiques d'Hérode, ni des Zélotes, des FLN, mais il n'utilise pas non plus les moyens apolitiques. Il forme un mouvement qui menace les autorités, qui le fait comprendre comme prétendant à la royauté pour qu'on puisse le mettre à mort sous ce titre, qui fait peur à Hérode parce que ça ressemble trop à Jean. Donc, il est juste de dire qu'il n'a pas pris les moyens politiques si on a défini le mot, l'adjectif politique, très étroitement. Mais j'estime plus utile, plus apte à nous illuminer, de voir que si c'était une politique, c'était une façon d'agir socialement de manière à secouer les structures, à proposer une alternative, à donner aux gens une autre orientation dans la vie, même la vie dont disposaient les autorités, des rois. Jésus ne dit jamais « Je ne suis pas un roi, vous m'avez mal compris. » Il dit « Vous m'avez mal compris, je ne suis pas un roi comme ça. » Je suis un roi autrement. Et c'est ce autrement qui est quand même politique pour moi. Il n'a pas pris les moyens de violence révolutionnaire parce que ça, c'est une mauvaise politique. Pas parce que le refus de violence est apolitique. Nous allons en revenir, c'est pour ça que je réponds seulement avec des slogans qui certainement ne suffisent pas, mais qui peut-être indiquent la direction que prendre une réponse. J'estime plus utile d'utiliser le mot politique dans son sens philosophique qui remonte à Aristote, que c'est tout ce qui a à faire avec la vie en commun, et là, c'est de ça que Jésus a parlé. C'est là qu'il a innové. il a créé un peuple. Et pas le limiter à son acceptation moderne où politique est seulement le fonctionnement des partis et la militance pour obtenir les postes électifs.
Bien, une autre. Est-ce que la suppression de l'esclavage et les mouvements sociaux au moment de la révolution industrielle sont une conséquence directe ou indirecte de ce que Jésus a enseigné?
Je dirais oui, mais je voudrais que le oui ne soit pas trop lourd. Nous n'avons pas à accepter tous les défis de nos interlocuteurs pour prouver en leurs termes que nous pouvons si, faire le bien aussi bien que eux dans leurs termes. Et dans ce sens-là, il y aurait quelque chose d'un peu trop apologétique à vouloir toujours prouver que chaque mouvement utile social est le fruit de notre témoignage. C'est bien largement le cas, et les historiens de la société peuvent montrer les liens entre les changements institutionnels à long terme et le témoignage chrétien. Le lien est particulièrement proche dans le monde anglo-saxon, dans la lutte contre l'institution de l'esclavage des temps modernes. Là, c'est très net, ce sont les méthodistes et les quakers qui ont aboli l'esclavage dans le monde britannique. C'est l'exemple peut-être le plus simple. C'est un peu plus difficile de généraliser et dire que tous les mouvements sont indirectement le résultat du témoignage chrétien, et je ne crois pas qu'on ait besoin de prouver ça. Mais je dis que la nécessité d'affirmer ça ne doit pas peser trop lourd. Ce qui importe davantage, c'est de voir que la présence du nouveau peuple dans l'Empire romain, déjà dans le premier siècle, sans attendre Constantin, et sans attendre des incidences sur la législation, le fait qu'il y avait l'Église dans le premier siècle était déjà un changement politique, était déjà une nouvelle option, était déjà un ferment de changement dans la société, bien avant qu'ils aient eu le pouvoir qui leur permettait d'avoir une influence sur la législation. Le petit texte de la lettre de Paul à Philémon est un commencement de la libération des esclaves. Si Philémon a fait, quand il a reçu cette lettre, ce que Paul lui disait de faire, Onésime était libre. Dans l'Église, on partage déjà. Alors que dans l'optique marxiste, on parle de révolution, on parle tellement de révolution que parler de révolution devient l'opium du peuple. Dans l'Église chrétienne, la révolution a commencé. On vit déjà autrement. Et juste dans le domaine du pouvoir et de la richesse et de la dignité de l'autre, surtout de la dignité de l'autre qui est ennemi, subordonné, pauvre, exclu. C'est là que la vie chrétienne a déjà commencé une autre politique, une autre structure sociale.
Jésus n'a pas réussi à implanter le royaume de Dieu, est-ce que c'est un échec? Et la deuxième question, aujourd'hui, est-ce que l'Église ajoute à ce premier échec un second échec en ne marchant pas d'une façon très précise dans les traces de Jésus?
Il y a naturellement quelque chose de circulaire dans l'effort de définir les termes ou de discuter les définitions de termes. Moi, je ne dirais pas que Jésus a échoué. Il a fait ce qu'il était venu faire. Il a commencé cette nouvelle réalité. Il n'a pas commencé par en haut, en dominant la Palestine ou l'Empire romain, parce que ce serait une contradiction dans les termes. On ne peut pas imposer une évangile dont le contenu est de ne pas s'imposer. On ne peut pas par violence généraliser un message qui comprend la prononciation, la violence. On ne peut pas forcer l'autre à rentrer dans le jeu d'un message dont le centre est de ne pas forcer l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réussite? On ne peut plus le mesurer comme on mesurait la réussite d'un Hérode ou d'un Che Guevara. Il faut le mesurer autrement. Et dans le témoignage du Nouveau Testament, la réussite, c'est la Pentecôte. C'est le fait qu'il y a maintenant sa vie, et sa vie d'une façon missionnaire, agressive, qui va englober tous les peuples. Et alors il faut redéfinir nos termes. Ça, c'est une réussite. Alors, ça pose aussi la deuxième question. Est-ce que depuis, l'Église a échoué, en grande partie, depuis Constantin, elle a changé son caractère, son message, elle a fait exprès de ne plus faire ça. Parce qu'elle a voulu réussir sur l'autre plan. Elle a produit une chrétienté, mais en changeant son contenu. Depuis là, nous sommes vivants dans la dialectique d'échéance et de rénovation de l'Église infidèle et l'Église renouvelée toujours par le contact de la parole. Et donc il faudrait des réponses très mixtes à la question. Il y a des éléments de redécouverte de cette réalité du nouveau monde déjà parmi nous et beaucoup d'éléments de manque de clarté prophétique ou manque de vigueur d'obéissance où l'Église s'y échoue. C'est pour ça qu'il faut un GBU.
Est-ce que le christianisme est monolithique ou alors est-ce qu'on peut le découper en tranches durant l'histoire et aussi dans son état d'esprit ?
La réponse à une question de fond comme celle-là doit être complexe. C'est pour ça que j'hésite à fournir quelques slogans. Parce qu'il faut que ce soit oui ou non. Si Dieu agit dans le monde réel, il nous parlera en notre langage. Ça veut dire si nous sommes chinois ou africains, il faut qu'il nous parle dans les termes de notre pays. Donc on ne peut pas rester dans une éternisation du langage juif du Nouveau Testament ou du grec du Nouveau Testament. Il faut que l'Église missionnaire toujours soit en train de trouver des nouvelles paroles, de traduire et de traduire fidèlement. Mais c'est ça, toute traduction n'est pas fidèle. Et il faut mesurer la fidélité de la traduction et la mesurer par une référence constante au début. Je ne sais pas si le mot oriental est tellement utile pour désigner ce qu'il ne faut pas changer, mais je dirais plutôt juif. Jésus était juif. C'est-à-dire, il incarnait une conception de la loi de Dieu, une conception de l'honneur de Dieu, de la sainteté, de l'unicité de Dieu, qu'il ne faut jamais perdre dans la traduction. Et dans cela, il faut donc toujours une référence à ces points de départ, mais une référence qui soit missionnaire, c'est-à-dire toujours dans le langage de notre temps. On ne peut pas dire oui ou non à la question, il faut dire comment avancer avec le temps sans trahir le Jésus juif avec lequel nous avons commencé. Et c'est ça le problème de Constantin, ce n'est pas qu'il ne fallait pas s'adapter au IVe siècle, c'est qu'on s'est adapté mal. Ou la référence au platonisme, c'est pas qu'il ne fallait pas parler le langage des philosophes, mais ils l'ont parlé mal. Ils ont vendu le message dans un souci d'adaptation qui était trop superficiel et pas assez biblique, pas assez enraciné dans les textes.